Radio Okapi. Le journal vous est présenté par Belinda Bossouma.
L'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane à CAD Nord Kivu demande au gouvernement de restituer les droits et taxes aux opérateurs économiques dont les marchandises ont été incendiées par des hommes armés. La CAD décide en attendant d'arrêter toute activité liée aux déclarations des marchandises au poste douanier de Kasindi. Le président du Conseil supérieur de la magistrature s'emploie à améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats. Dieudonné Kamoulé Taleur recommande toutefois de changer les mauvaises mentalités pour lutter contre la corruption. Il l'a dit hier à la clôture de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, le capitaine Anthony Mwalusha est notre invité ce matin. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord revient sur l'attaque des présumés ADF la nuit de mardi à hier au centre de Beni. Attaque qui a coûté la vie à 7 personnes. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par ce cri de cœur de l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane, ACAD, section du Nord Kivu. Cette organisation tire la sonnette d'alarme quant aux souffrances et pertes que subissent les opérateurs économiques en province. Très souvent, les camions transportant leurs marchandises après qu'ils ont payé droits et taxes pour le compte du trésor public au poste douanier de Kasindi sont ensuite saisis par des hommes armés qui les brûlent. Face à cette situation qu'elle qualifie de tragique, l'ACAD demande au gouvernement de compatir avec les opérateurs économiques en leur remboursant ne fût-ce que les droits et taxes payés, emboîtant le pas à la FEC Beni Boutembo qui a suspendu depuis lundi toute importation et exportation à partir de Kasindi pour dénoncer justement les meurtres et incendies des cargaisons et marchandises sur ce tronçon. L'ACAD annonce aussi qu'elle arrête toutes les activités liées aux déclarations des marchandises au poste douanier de Kasindi. Tchongo Matata Delians, président provincial de l'ACAD, s'est ainsi exprimé au cours d'un point de presse à Goma. Il est au micro de Denise Lukeso.
Aujourd'hui, les opérateurs économiques sont en train de traverser des moments très difficiles. Imaginez un camion de marchandises vient de pays étrangers, arrive au poste frontalier de Kasindi. L'opérateur économique disponibilise les moyens pour payer tout ce qui est droit et taxes liés à cette marchandise-là. La marchandise termine sa phase de dédouanement, arrivée à Boulogne, ses véhicules et marchandises et sa mine. Donc l'importateur vient de perdre trois choses. L'argent liquide qu'il avait dans ses mains, il a payé les taxes. La marchandise qui était transportée, il vient de perdre aussi les moyens de transport. Nous demandons que la marchandise qui vient de payer les taxes, calcinée à cours de route, que le gouvernement puisse être compatissant même à rembourser les droits et taxes payés pour que cette opérateur économique là puisse rechercher encore juste avec ça en attendant que les processus de dédommagement puissent arriver par l'avenir. Nous savons que toutes ces marchandises qui sont en train d'être brûlées en cours de route, nous avons un gouvernement, un parlement, la présidence, un jour ils se focaliseront sur ces cas de difficultés que traverse la population aujourd'hui.
Du côté de l'Ituri, environ 120 sites miniers seraient illégalement occupés actuellement par des éléments du groupe armé Codeco URDPC et Bon Temple des Dieux, cela dans plusieurs entités du secteur de Banyalikilo, territoire de Djougou. Selon le président de la communauté Niali qui le rapporte, cette situation risque d'avoir un impact négatif sur le processus de paix en cours. Pour sa part, le chef de secteur de Banyalikilo ne confirme pas ces chiffres. Il précise qu'environ 10 groupements de cette entité sont sous le contrôle de ces hommes armés qui exploite illégalement de l'or dans cette zone. Le président de la communauté Niali, Vital Tungulo, invite le gouvernement à accélérer le programme DDRCS pour le retour de la paix dans ce milieu. Les échecs et les réussites de la MONUSCO sont les échecs et les réussites de la RDC. Déclaration du porte-parole de la mission onusienne en réaction à l'opinion selon laquelle la présence de la MONUSCO pendant plus de 20 ans en RDC est un échec. Au cours de la conférence de presse des Nations Unies hier à Kinshasa, Mathias Gilman a souligné que la situation actuelle des deux Kivu et de l'Ituri ne devrait pas occulter les succès et les efforts qui ont été consentis pour préserver l'intégrité et l'unité de ce pays. Un extrait des propos du porte-parole de la MONUSCO sélectionné par Honoré Missenga.
Nous sommes parvenus, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, grâce aux Congolais, bien sûr, mais aussi grâce à notre soutien, à soutenir et à tenir l'intégrité territoriale de votre pays. Ce n'était pas une mince affaire. Il ne faut pas faire comme si c'était quelque chose qui a été facile. Le pays tient dans les frontières qui sont héritées de la colonisation. Le pays est massivement stabilisé. Nous ne sommes plus au Katanga, nous ne sommes plus à la Tchopo, nous ne sommes plus au Wele, nous ne sommes plus au Tanganyika, nous ne sommes plus au Kasaï. Donc il faut sortir de cette idée que parce que en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu, nous ne sommes pas encore là où nous voudrions être, que ça déjuge complètement tout ce qui a pu être réussi. Et encore une fois, je voudrais rappeler que les échecs et les réussites de la MONUSCO sont les échecs et les réussites de la République démocratique du Congo. On ne travaille pas seul, on travaille avec votre gouvernement, avec vos autorités, avec les faiblesses qui persistent de votre État, et on va continuer à le faire de manière déterminée pour effectivement pouvoir clore ce chapitre de l'histoire de la RDC.
Et en marge de la Journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet de chaque année, le représentant RDC du Fonds des Nations Unies pour la population était l'invité spécial de la conférence de presse de l'ONU hier. Dans son message, il a exhorté la RDC à investir dans les données, notamment par la réalisation du second recensement général de la population et de l'habitation. Le président du Conseil supérieur de la magistrature recommande aux magistrats le changement des mauvaises mentalités pour lutter contre la corruption. Dieudonné Kamuleta l'a dit à la clôture hier à Kinshasa des travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du CSM. Il a invité les magistrats à la discipline et a fait savoir que son bureau s'engage à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats. À noter que la primeur des recommandations et résolutions de ces travaux est réservée au président de la République. Le compte-rendu de Jeff Ngoy Mulunda.
Les résolutions des travaux de cette session, comme à l'accoutumée, ne seront publiées qu'après que le chef de l'État en aura pris connaissance. Mais le président du CSM, Dieudonné Kamuleta, a, dans son discours de clôture, interpellé les magistrats sur leur comportement afin de contribuer à l'éradication de la corruption.
Nous sommes regardés en face pendant ces assises pour qu'ensemble nous puissions commencer un nouveau départ sûr et assuré. Ainsi, j'engage les chefs de juridiction et d'office, civils comme militaires, à combattre la corruption, l'impunité et les autres antivaleurs qui gangrènent le corps de la magistrature et jettent sur lui un discrédit. Dorénavant, un chef qui fera montre d'indifférence, passivité ou d'inertie face à une faute disciplinaire et ou pénale commise par un magistrat sous son autorité sera considéré comme complice ou incompétent et les conséquences qui s'imposent seront tirées à son égard. Le changement de mentalité, c'est maintenant.
Et le budget du Conseil exercice 2023, son autonomie financière, le recrutement de nouveaux magistrats, les propositions de retraite et de promotion, bref, tous ces points sont passés au peigne fin durant 8 jours de débats, selon le président du Sinamag, Edmond Issofa. Il s'est dit satisfait du nouvel élan impulsé par le bureau du CSM.
Entre-temps, au Kwilu, il y a carence des juges et des magistrats au niveau du tribunal de paix du territoire de Bagata. Le nombre des policiers affectés dans ce territoire est aussi insuffisant, a dit l'administrateur du dit territoire. Selon Joseph Mankoto, la police n'est pas en mesure de maîtriser les situations sécuritaires qui nécessitent son intervention et le droit n'est pas dit dans cette juridiction, causant ainsi des cas de justice populaire. S'exprimant hier devant la presse, il a plaidé pour l'augmentation des effectifs des policiers à Bagata et pour l'affectation des juges et des magistrats au tribunal. Paix afin de lutter contre l'impunité. Irène Boma.
Dans un entretien avec Radio Okapi, l'administrateur du territoire de Bagata, Joseph Mankoto, qui s'est dit préoccupé face au faible effectif des policiers commis dans sa juridiction, s'est exprimé en ces mots.
Le cas des faibles effectifs de la police, c'est un cas déplorable. Souvent, quand on appelle la police pour aller assister dans des cas, vous trouvez dans les SIAT ou sous-SIAT, il n'y a qu'un commandant avec des policiers. Et souvent, la police est débordée. Et c'est quoi faire?
Outre les problèmes liés à l'insuffisance des policiers, l'autorité territoriale a aussi fait savoir que cela fait 3 ans que le tribunal de paix de Bagata ne fonctionne plus faute de juges. À l'en croire, cela a comme conséquence, entre autres, les taux élevés de criminalité par la justice populaire dans ce coin.
Les risques sont éminents, les dossiers sont accumulés au niveau du parquet. Aussi, la justice populaire. Chez nous à Bagata, quand un jeune meurt, on doit abattre l'oncle, la tante maternelle, on va incendier la maison. maison.
La tête de Bagata plaide auprès des autorités attitrées afin de bien vouloir augmenter le nombre de policiers dans cette contrée et d'affecter les juges au tribunal de paix de Bagata pour que les droits soient dits comme il se doit et pour lutter contre l'impunité. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis, l'Église du Christ au Congo SCC se lance déjà dans la campagne de sensibilisation de la population congolaise à s'approprier dès maintenant le processus électoral. C'est par le biais de sa commission justice, paix et sauvegarde de la création. Le processus de cette campagne de sensibilisation est ouvert par l'organisation pendant 2 jours, soit du mercredi 13 à ce jeudi 14 juillet à Kinshasa, d'un colloque sur l'analyse de la loi électorale promulguée le 5 juillet dernier. Écoutez à ce sujet le révérend Eric Nsenga, secrétaire général de cette commission et porte-parole de l'ECC. Il est au micro d'Honoré Missenga.
Nous venons maintenant de commencer la campagne de sensibilisation. Vous avez constaté qu'il y avait un silence au niveau de l'opinion publique depuis la promulgation de la loi. D'ailleurs, beaucoup ne savent même pas que la loi est déjà promulguée. Et rappelons ici que la loi est le miroir d'un processus électoral. Donc, c'est au regard de cette loi qu'on peut, de manière beaucoup plus claire, accompagner les mesures d'application qui restent. Il y a les calendriers électoraux que nous attendons. Il y a également les opérations d'identification des électeurs. Donc, pour nous, commission d'observation électorale, nous avons une étape à long terme qui consiste à observer les opérations qui devraient déjà commencer jusqu'aux opérations de clôture, c'est-à-dire le traitement des contentieux électoraux. Donc, le tout mis dans le même paquet, c'est ça la responsabilité de la mission d'observation électorale.
Par ailleurs, le révérend pasteur Erin Senga a précisé que l'ECC et la SENCO auront une mission d'observation électorale conjointe. Les associations de la jeunesse de la RDC en collaboration avec le Centre d'études pour l'action sociale CEPAS ont organisé hier à Kinshasa un débat citoyen autour de la session ordinaire du Parlement de mars 2022. Selon le coordonnateur de l'Union des jeunes Congolais pour le changement, cette action a pour but de sensibiliser les Congolais sur l'utilité de contrôler les activités des députés et sénateurs en leur demandant dorénavant de rendre compte. Mukenge Totoro ajoute que ce débat citoyen s'inscrit dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja, c'est-à-dire Réussissons ensemble, qui a pour objectif de garantir la présence de la jeunesse à tous les postes de décision, notamment au Parlement. Le coordonnateur de l'Union des jeunes Congolais pour le changement s'exprime au micro de Jean-Désiré Kanyama.
Cette activité d'aujourd'hui, c'est de rendre public le travail qui avait été fait, mais l'auditoire, ce sont des jeunes ambitieux qui se préparent à occuper des postes de décision demain. Si nous voulons un changement, il faut qu'il y ait des acteurs qui sont préparés pour le changement. Quand les parlementaires vont en vacances, ils vont se retrouver face à leurs électeurs ayant déjà le contrôle parlementaire entre leurs mains. Donc la population va devoir demander des comptes par rapport aux faits. Et par conséquent, le député doit maintenant répondre est-ce qu'il a été à la hauteur du mandat que vous lui avez accordé. Ici, le contrôle citoyen prend de l'ampleur. C'est pour que ceux qui vont être élus dans 2023 qu'ils soient à la hauteur. Et ceux qui sont là aujourd'hui, le travail qu'ils font aujourd'hui, c'est ce qui va permettre leur élection en 2023. Donc, les parlementaires d'aujourd'hui, ils sont enfin sur le projecteur de la population et la nouvelle génération qui constitue 80% de leurs électeurs est en train de suivre de près. Et vous savez encore ce qui est important, c'est de comprendre que ces 80% que nous constituons la jeunesse, nous sommes les victimes de l'incompétence au niveau de la gestion de la République. Donc, ils doivent prendre ça très au sérieux.
Présente à ce débat en qualité d'intervenante, la députée nationale Christelle Vuanga a reconnu que cet échange citoyen va inciter les parlementaires à bien faire leur travail. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi le début du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle qui se tient ce jeudi et demain vendredi sur toute l'étendue de la RDC dans la province éducationnelle Kwilu 2, dont le siège officiel se trouve à Kikwit. Plus de 48 000 élèves de la 8e année vont prendre part à cette épreuve qui va leur permettre d'être orientés pour affronter les humanités. L'inspecteur principal provincial IPP du Kwilu 2 s'exprime à ce sujet. Dieudonné Justin Ntsimba Vouvou est au micro d'Irène.
L'organisation et les épreuves sont déjà arrivées dans tous les centres, donc l'examen va être lancé. Bon, l'effectif attendu est de 43 018 candidats, dont 21 092 filles. C'est dans le cadre de la réforme du système éducatif qui a prévu que l'enseignement de base aille jusqu'en 8e et qu'en 8e qu'il y ait un test. Donc c'est nouveau quand même. Ça, c'est la première édition du TENASOSPO. Ça va permettre aux enfants d'être orientés pour aborder les humanités, la filière qui pourra lui être proposée. Si un enfant ne participe pas au test, il n'aura pas la possibilité possibilité d'affronter les humanités. Les questions ne sont tirées que du programme et des manuels scolaires qu'ils ont toujours mis dans leur classe. Donc, ils doivent être capables de répondre. Chez nous, le frais de participation s'élève à 28 000 francs congolais. Là, il y a le frais de fichier et le frais de participation. Donc, au total, c'est 28 000 francs congolais.
Les atouts de la forêt de la RDC face au changement climatique, c'est le thème de la conférence débat organisée hier à l'Université pédagogique nationale UPN sous l'initiative de l'ONG Monde Vert. Cette conférence s'était essentiellement basée sur le bien fondé du reboisement dans le milieu universitaire. Ceci rentre dans le cadre de l'initiative du chef de l'État, celui de jardin scolaire, 1 milliard d'arbres pour le climat à l'horizon 2023, détail avec Jacques-Yves Molima.
D'après l'orateur du jour, le professeur Jean-Pierre Fouamba, la forêt de la RDC joue le grand rôle de régulateur du climat au monde et faire le reboisement revêt un sens capital pour la jeunesse.
Reboiser, c'est un exercice très important qui permet d'avoir une biomasse assez importante aussi pour capter les gaz à effet de serre. Et ces reboisements se placent dans le cadre de création d'emplois pour la jeunesse.
Et pour ce faire, le DG des Fonds forestiers nationaux présent à cette conférence atteste que son institution est prête à financer tout projet des jeunes. Honoré Moulumba Kalala.
Nous affirmons que si vous avez des projets, nous allons les traiter selon les manuels de procédure et nous allons les financer. Ce n'est donc pas la dernière fois que vous allez nous voir ici à l'UPN.
Notons qu'à l'occasion, quelques arbres ont été plantés dans le site universitaire. Geste symbolique de sensibilisation dont, sous les locaux, coordonnateur de l'ONG Monde Vert dénomme un arbre pour un climat.
Actualité internationale. L'état-major des armées de Côte d'Ivoire a livré hier des précisions sur la présence de ses 49 militaires interpellés à l'aéroport de Bamako dimanche. L'armée ivoirienne insiste sur le fait que le contingent arrêté est bel et bien en mission officielle au Mali dans le cadre des opérations de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSMA, mais l'ONU a du mal à clarifier si ces déploiements qui ont commencé en 2019 ont une mission aussi claire qu'Abidjan ne l'affirme.
L'invité.
L'invité de ce matin est le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Le capitaine Anthony Mwalushai revient sur l'attaque des présumés rebelles ADF la nuit de mardi à hier mercredi au centre-ville de Beni, attaque qui a coûté la vie à 7 civils. Le capitaine Mwalushai s'entretient avec André Kitenge.
Capitaine Anthony Mwalushai, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Il y a eu une incursion des présumés ADF cette nuit en plein centre-ville de Beni, au quartier Païda. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est-il passé réellement?
Exactement, c'était dans le quartier périphérique de Bouéréré, surplombant la cité de Païda, où l'ennemi ADF MTM a kidnappé un compatriote, un venant qui a guidé, n'est-ce pas, les troupes, jusqu'à pour éviter les positions militaires. Mais malheureusement, arrivé dans la cité de Païda, le compatriote qui a aidé l'ennemi à faire son incursion dans la cité a été malheureusement tué par l'ennemi. Et l'ennemi est allé dans une famille et qui a tué même les deux couples qui se préparaient déjà pour entrer dans leur maison. C'était à au moins 1 kilomètre de l'état-major du secteur opérationnel. Nous avons été alertés par ces coups de balles et en venant au secours de la population, nous avons trouvé un rescapé, une dame qui avait bien sûr reçu des balles de l'ennemi et aussi un enfant qu'on a immédiatement amené à l'hôpital général. Mais malheureusement, quelques heures plus tard, la dame a rendu l'âme et l'enfant, pour le moment, est encore vivant et il est entre la vie et la mort. Mais pour l'instant, il faut dire que l'intention de l'ennemi n'était pas d'attaquer non seulement la ville de Beni, mais c'était pour distraire nos troupes qui avaient déjà le renseignement sur l'attaque de la prison de Kangwayi et libérer les combattants ADF que nous avons capturés. Entre-temps, au moment où ils s'attaquaient à la population, il y avait 3 opérations qui étaient en cours. Une opération visée la prison de Kangwayi et une autre opération menée par les supplétif des ADF dans la cité de Bulongo a été déjoué par les forces armées de la République démocratique du Congo qui ont réussi à neutraliser 3 maïmaï de Dido qui ont été neutralisés par les forces armées. Et du côté de la prison de Kangwayi, les ADF qui étaient déjà dans nos murs, qui avaient déjà des informations sur leur libération, voulaient déjà s'enfuir. Nos troupes ont réussi à les récupérer parce qu'on était vraiment bien organisés organisée du côté prison. Et les financiers des ADEF du nom de Baloukou Radiabou a été récupéré parce qu'il a été arrêté il n'y a pas 4 mois. Et les ADEF faisaient le tout possible pour libérer ces financiers qui est vraiment une tête sur le plan financier, n'est-ce pas, qui a beaucoup aidé les troupes à avoir beaucoup de collaborateurs et à faire des transactions monétaires dans cette ville de Béni.
Mon capitaine, cette attaque a eu lieu dans un quartier des civils. Peut-on d'abord avoir le bilan pour l'instant?
Pour l'instant, au total, maintenant, ça fait 7 corps, un bébé qui est interné à l'hôpital.
Comment expliquer que cette attaque a eu lieu à quelques mètres de l'état-major du secteur opérationnel? Ça laisse à penser.
L'ennemi a ses calculs. Vous savez, parfois, nous condamnons trop pressés nos services de sécurité, qui fait d'ailleurs un bon travail sur le terrain. L'idée de l'ennemi n'était pas de s'attaquer, parce qu'il sait qu'il y a une force. L'ennemi ne peut pas résister à l'état-major du secteur. Mais l'ennemi voulait empêcher les troupes qui étaient à l'état-major d'aller intervenir du côté de la prison. C'est pourquoi l'ennemi, quand il a opéré à 2 groupes. Un groupe pour distraire d'abord les gens qui étaient à Bolongo, c'est-à-dire nos forces qui sont sur la route Beni Kassindi allaient intervenir directement du côté Bolongo et empêcher maintenant les troupes qui étaient près de la prison, c'est-à-dire l'état-major du secteur Sokola, un cran nord, d'aller maintenant intervenir à la prison de Kangwai. C'est-à-dire l'ennemi préparait déjà la route de retour. C'est au moment où la mission réussissait du côté de la prison et que sur la route de retour, que l'ennemi n'ait pas des obstacles. Nous étions informés de l'attaque de Kangwai et c'est pourquoi nous avons sécurisé et il n'y a pas eu des évadés.
Et quel est le climat qui règne actuellement au quartier Païda?
Donc tout est contrôlé par les forces de sécurité. Nous venons de là. Nous sommes en train de planifier encore d'autres stratégies pouvant renforcer, n'est-ce pas, la sécurité dans la ville, parce que l'intention de l'ennemi c'est entrer dans la ville et libérer les leurs. Alors nous avons pris des dispositions adéquates, n'est-ce pas, pour que cette intention échoue, parce que nous ne pouvons pas tolérer qu'avec ou sans complicité de certains de nos compatriotes, l'ennemi continue toujours à endeuiller la population.
Capitaine Anthony Mwalouchai, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.